Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Mimi Ngumba Mulongo.
Plaidoyer en faveur de minerais de la RDC, la coalition à la Cour pénale internationale à Goma plaide pour qu'il ne porte pas toujours l'image de minerais du sang. Non au transfèrement des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad, un chercheur congolais propose plutôt une autre alternative. Nord Kivu, tension à l'université de Goma, deux camps d'étudiants s'affrontent autour de frais des constructions perçus par les autorités administratives. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans ce journal, les minerais de la RDC ne doivent pas toujours porter l'image de minerais de sang. Telle est la perception de la communauté internationale ainsi que d'autres organisations internationales œuvrant dans ce domaine. C'est ce qu'a déclaré ce week-end l'un des membres de la coalition à la Cour pénale internationale à Goma. Cet acteur estime que de telles mesures privent les Congolais de la jouissance de leur patrimoine socio-économique. Pourtant, précise-t-il, c'est sont les mêmes minerais qui sont exportés par de pays voisins vers l'étranger. Joseph Douni Arouyendi explique au micro de Gabriel Ouaménia.
Nous allons d'abord démontrer qu'il s'agit d'un alibi de l'Union européenne et des Nations unies pour pouvoir présenter que l'échec du processus politique, processus démocratique, ce sont les minerais et pourtant ce n'est pas le cas. Il faudrait démontrer aussi que les Congolais sont intelligents de pouvoir appeler les investisseurs à venir transformer les minerais sur terrain. Parce que même quand on parle des minerais de sang, les Occidentaux continuent à consommer nos minerais et pourtant, lorsque vous voulez vendre vos minerais, il y a tous les mécanismes de sanctions qui vous attendent et pourtant quand vous êtes à un mètre de la frontière de la RDC, si vous avez des minerais, vous pouvez les vendre librement. Mais si vous êtes trouvé au Congo, on va vous dire que vous n'avez pas rempli tous les mécanismes d'obtention des minerais congolais. Et là, vous êtes mis sur la liste. Ça prive les Congolais de leurs droits socio-économiques. Vous ne pouvez pas vendre vos minerais. Si vous vous rappelez le boom des coltans et des castérites ici, vous voyez comment la ville était en train d'aller rapidement, comment les taxes entraient. Et aujourd'hui, avec tous ces mécanismes-là, ce sont les autres États qui peuvent vendre les minerais congolais. Et pourtant, les Congolais sont privés de ne pas vendre les minerais. Et c'est ça l'objet de notre attaque de l'Union européenne et des Nations unies devant l'OCDE.
Vulgarisation du code minier révisé. Albert Yuma parle d'une mission réussie aux États-Unis. Le président du conseil d'administration de la GECAMINE et numéro 1 de la Fédération des entreprises du Congo l'a dit à l'issue de la conférence tenue au conseil atlantique vendredi à Washington. Dans son intervention, il est revenu sur les motivations de la révision du code minier. Albert Yuma a soutenu que pendant plusieurs années, les miniers n'ont pu contribuer à hauteur de 5% dans les budgets de l'État, alors qu'en son temps, la GECAMINE seule intervenait jusqu'à 70% dans ses budgets. Pour le président de la FEC, l'étape actuelle est irréversible car il faut appliquer le code minier tel que promulgué, tout en soulignant que les miniers ont été associés à tous les niveaux du processus. On écoute Albert Yuma.
Aujourd'hui, avec le code minier de 2002, on a cédé nos mines. On a produit plus de 1 million de tonnes et ces entreprises multinationales ne contribuent même pas à 5% du PIB de l'État congolais. Il y a eu dialogue dans tout le processus de révision du code minier. Quand aujourd'hui certains miniers disent qu'on n'a pas été associé, le dit très clairement et haut ici que c'est un mensonge. Le code minier de 2002 aurait dû être révisé selon les accords en 2012. Les négociations avaient commencé, elles ont été stoppées par l'action du secteur privé dont je suis le président parce qu'on estimait qu'on sortait de la grande crise financière. C'était pas le moment de réviser. Mais quand vous êtes dans un processus de négociation, vous venez avec vos arguments, mais l'État congolais, le Parlement congolais, la société civile, avaient aussi leurs arguments, et quand le Parlement a pris les options, on a rejeté les arguments des miniers, parce que je viens de vous le dire, ils n'ont pas fait bénéficier au pays des ressources qu'on leur avait données en gestion. Voilà la vérité.
Notez qu'Albert Yuma a conduit une délégation composée de Patrick Thierry-André Kakwata et Thomas-Henri Lokondo, députés nationaux, François Kouna Baloumouéné, ambassadeur de la RDC aux États-Unis, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique auprès de Joseph Kabila et Simon Toumawaku de la Chambre de Mines à la Fédération des entreprises du Congo. Le transfert des eaux de la rivière Oubangui et des eaux du fleuve Congo à partir des l'embouchure pour alimenter le lac Tchad n'est pas la solution idoine. C'est ce qu'a déclaré Jean-Jacques Osongo, chercheur indépendant. D'après ses recherches, l'eau qui devra alimenter le lac Tchad viendrait d'un autre site dont la primeur est réservée au chef de l'État, Joseph Kabila. Il l'a dit hier samedi ici à Kinshasa au cours d'un point de presse qu'il a animé. Jean-Jacques Osongo l'a dit à Paul Matendo.
Si on prend l'eau de la rivière Oubangui pour aller alimenter le lac Tchad, Inga va sécher, alors que c'est Inga le poumon énergétique de l'Afrique et du monde entier. Même nous ici, on n'aura plus le courant. Il y a les autres qui disent que non, on peut prendre l'eau à partir de l'embouchure du Congo aux alentours de l'île de Boulambeba. Et si on prend l'eau de là pour amener, nourrir et alimenter le lac Tchad, mais comment les grands bateaux vont-ils entrer vers le port de Boma et de Matadi? Il y a encore une autre version. Nos frères de l'Afrique australe disent aussi que nous devons prendre l'eau de la rivière Kasai pour alimenter le pays de Kalahari. La solution n'est pas là. Et le Seigneur nous a inspiré là où on va prendre de l'eau douce et alimenter le lac Tchad.
C'est où?
Non, c'est quand je vais être reçu d'abord par le chef de l'État congolais avant d'aller à Brazzaville assister et donner cette solution à cette grande conférence où le président Sassou a invité les 55 chefs d'État africains. Tous seront à Brazzaville.
Il y a risque de paralysie des activités demain lundi à l'université de Goma Unigom. La tension persiste toujours entre les deux camps des étudiants suite à la demande au comité de gestion par certains étudiants de justifier l'affectation de $20 payés par an et par étudiant comme frais de construction perçus depuis plus de 5 ans. Un de ces étudiants, Eliezer Ushindi, explique la situation.
Quand on revendiquait, il y a nos camarades qui étaient tabassés au niveau de l'ISC jusqu'à ce qu'ils ont été conduits ici à l'hôpital général. Sans même terminer les soins, on les a acheminés au parquet. Après quelques temps, on a vu une lettre en train de circuler que les gens qui ont tabassé ces étudiants étaient dans une réunion quelque part pour organiser ça. Et nous avions constaté que l'auteur de ces informations n'avait pas un autre objectif que de vouloir nous parvenir à dévier ce que nous revendiquons pour commencer entre nous les étudiants de ces bagailles. Et tout le monde qui peut encore circuler cette lettre, donc les conséquences tomberont maintenant sur sa tête. Nous avions voulu démentir cette lettre pour ramener encore les étudiants qui revendiquent leurs droits à poursuivre leur objectif. S'il y a des désordres à l'université qui arrivent à troubler l'ordre public, on doit appeler la police. Mais quand le brigadier commence à frapper les étudiants, quand ils revendiquent leurs droits, ça ne vit pas encore la brigade.
Au sujet de la paralysie des activités dans cette institution suite à la demande de transparence par certains étudiants sur les frais des constructions, le recteur de l'université de Goma a toujours promis de se prononcer au cours d'un point de presse. Ici à Kinshasa, le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria a été déguerpi hier samedi avant midi de sa résidence par le bourgmestre de la commune de la Gombe. La dite résidence se trouve au numéro 438 de l'avenue Roi Baudouin dans la commune de la Gombe et la parcelle est querellée entre l'ambassade nigériane et un Congolais du nom de Jean-Claude Okito. D'après l'avocat de la communauté nigériane, cette parcelle est une propriété de l'ambassade d'il y a 20 ans. Maître Serge Lukanga crie à l'incident diplomatique.
Malheureusement, je constate que monsieur le bourgmestre est passé pour déguerpir le consulat, chose qui est irrégulière. C'est une ambassade. Donc, il y a une procédure à suivre pour tout déguerpissement d'une résidence d'un ambassadeur. Ça, c'est un incident diplomatique grave. C'est vraiment violer la loi délibérément par monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe qui l'a fait personnellement. Il est à l'intérieur lui-même en train de déguerpir. Sans huissier, il a même installé l'autre partie sans décision, sans document. Bon, nous pensons que nous sommes dans un état de droit, que les choses seront faites légalement. Nous essaierons de voir ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas de décision judiciaire. Mais voilà comment on peut violer la résidence du consul, comme ça, en violation de la loi sur les conventions de Vienne. On a violé même la loi internationale qui protège les résidences des diplomates. Si le consul habite la résidence, ça veut dire que c'est avec titre et droit.
Les enfants de Jean-Claude Okito, réinstallés et trouvés sur place, affirment que cette parcelle est leur propriété depuis plus de 30 ans que les Nigérians ont occupée sans aucun titre. Écoutez plutôt Marie-Cécile Okito, fille de Jean-Claude Okito, venue spécialement des États-Unis pour ce dossier.
Depuis 1977 que papa a acheté cette parcelle avec ma défunte maman, mon père a dépensé pendant 30 ans. Il y a des avocats qui sont morts même. Ils ont tous fait des jugements que cette parcelle appartenait à mon père. Mais malheureusement, on ne pouvait pas y accéder. Et quand papa s'est rendu aux États-Unis, il venait chaque fois, mais il y avait des cadenas. C'est vraiment Monsieur Dolly qui nous a aidés parce qu'il a dû faire des enquêtes avant de procéder à le déguerpissement au niveau du cadastre. Il a fait des enquêtes au niveau du ministère Habitat et en fait tous les services qui concernent les maisons. Il a pris au moins un mois pour faire des enquêtes. Le bourgmestre a permis, il nous a aidé à rencontrer le ministre Tambwe Mwamba. Il a vu les documents, il a dit, mesdames, vous allez rentrer dans vos droits. Si vous avez tous vos documents, vous aurez votre parcelle, vous devez attendre le ministre des Affaires étrangères parce qu'eux prétendent dire qu'ils sont des diplomates. Et finalement, le ministre des Affaires étrangères est arrivé. À sa grande surprise, la parcelle n'est pas enregistrée chez lui. Et pour vous dire le reste, le bourgmestre a fait son travail de contacter tous ses généraux et tout pour leur dire, si vous intervenez, je vous informe qu'il y a des documents légaux. Allons dans la procédure légale. Je dois remettre ceux qui ont leurs droits dans leur parcelle. Voilà tout.
Interrogé, le bourgmestre de la Gombe, Dolly Makambo, trouvé aussi sur l'endroit du déguerpissement, déclare avoir pris une décision administrative conformément aux prérogatives lui dévolues. Et c'est sur ce dossier signé Innocent Olenga que nous bouclons ce journal, préparé par Élise Chikota et Ben Kabamba, mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci de l'avoir suivi.